Ce soir, le dernier chapitre de la justice, autrement dit, la justice dans les paroles, autrement dit, encore, huitième commandement. Le cinquième commandement interdit de porter atteinte à la vie du prochain, ça on l'a déjà vu. Le septième à ses biens, le huitième à son honneur. Et voilà pourquoi ça présente des difficultés particulières que nous étudions ce soir. Il est basé, bien sûr, sur la condamnation du décalogue, du mensonge. Mais dépasse de beaucoup, évidemment, cette interdiction. Vous verrez qu'il y a bien d'autres sujets que le simple mensonge. Mais enfin, c'est quand même par là que nous allons commencer. Le mensonge de, premièrement, de la restriction mentale. Troisièmement, les secrets. Quatrièmement, la diffamation. C'est un chapitre important, donc, puisque ce sont des péchés que les gens commettent assez facilement et sans se rendre compte. Les gens qui volent savent qu'ils volent. Les gens qui tuent savent qu'ils tuent. Les gens qui, oui, c'est ça, qui s'emparent ou qui abîment les biens du voisin, la damnification, etc., le savent en général. Mais la médisance, la calomnie, les gens vont bon train et je pense qu'ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. Pardonnez-leur, comme disait le Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors nous allons étudier tout d'abord le mensonge, puisque c'est quand même le fond du problème. Et puis après nous verrons ces cas particuliers. Le mensonge, il a une définition très précise. C'est l'expression, le plus souvent une parole. Évidemment pour vous, mentir c'est au moyen d'une parole. Mais c'est pas forcément une parole. On peut mentir par un signe, on peut mentir par autre chose. Le plus souvent une parole, mais généralement une expression, contraire à ce que pense son auteur. Et voilà le formel du mensonge. En latin, locutio contra mentem. C'est-à-dire une parole, un énoncé de l'esprit, qui est contre l'esprit qu'il prononce. Comprenez ce que ça veut dire? Le formel du mensonge, c'est de dire une chose qu'on sait fausse. Il peut vous arriver de dire des choses fausses, mais que vous croyez vraies. Et ça, c'est pas un mensonge. Il peut vous arriver même de dire des choses vraies, mais que vous savez être des mensonges. Autrement dit, que vous ne pensez pas. Et vous pouvez même mentir avec une chose vraie. Vous voyez la nuance? Non, vous ne suivez pas là. On peut mentir en disant une chose vraie. Je suis en train de vous expliquer, si vous me suivez bien, vous n'avez pas l'air de me suivre tout à fait là, que le mensonge se définit en latin locutio, je vais l'écrire au tableau, locutio contra mentem. Locutio, c'est le parler, hein, c'est ce que vous dites. Voilà, locutio contra mentem. Mentem, c'est l'esprit. C'est une parole qui est prononcée contre l'esprit. L'esprit de qui? Ben, l'esprit de celui qui le prononce. On est d'accord? C'est pas l'esprit du voisin. C'est l'esprit de celui qui dit cette locutio. On est d'accord? Ce qui fait que vous pouvez dire une chose vraie en mentant et ne pas mentir en disant une chose fausse. C'est pas le cas le plus général, on est d'accord. En général, quand on ment, on dit une chose fausse qu'on sait fausse, on est d'accord. Voilà. Et puis quand on ne ment pas, qu'on est un honnête homme, on dit une chose vraie qu'on sait vraie. Vous me suivez? Là, c'est simple. Mais il peut arriver que vous disiez une chose vraie alors que vous la croyez fausse. Et là, vous faites un mensonge. Et il peut arriver aussi que vous disiez une chose fausse mais que vous pensez vraie. Et vous ne faites pas de mensonge. Voilà, c'est tout simple. Hein? C'est ce que je dis dans les remarques. La chose dite peut être vraie. Ce qui importe, c'est qu'on ne la pense pas. C'est-à-dire, au moment où vous formulez cette chose, vous pensez que c'est faux. C'est ça, le mensonge. Oui, une question?
J'aimerais avoir un exemple.
Oui, je vais donner des exemples. Hein. On peut mentir, donc, en disant quelque chose de vrai, et ne pas mentir en disant quelque chose de faux. Et voilà l'exemple. Bon, il n'est pas génial, hein, je reconnais. Si je pense que Napoléon a gouverné l'Empire romain, bon, vous êtes complètement ignare, et vous mélangez 18 siècles d'histoire, et vous affirmez vraiment, Napoléon était un empereur de l'Empire romain qui a succédé, je ne sais pas, à Néron, à Caligula, etc. Vous le pensez? Vous ne mentez pas. Vous le pensez, c'est tout. Voilà. Je ne mens pas en le disant. De même, je mens en disant qu'il est mort à Sainte-Hélène si je pense le contraire. Vous pensez que Napoléon a été fusillé à New York? Bon, vous le pensez. Voilà, vous le pensez. Vous êtes sûr que Napoléon a été fusillé à New York en 1945, après les purges et tout ça? Bon, évidemment, ça suppose quand même quelque ignorance. Bon, d'accord. Mais, et vous dites qu'il est mort à Sainte-Hélène. Bon, vous voyez que vous dites vrai, parce qu'il est mort à Sainte-Hélène, sur son île, après 7 ans de prison, qu'il n'avait pas volé d'ailleurs. Parce que si vraiment il y a un bandit dans l'histoire, c'est bien Napoléon. Je ferme la parenthèse. Eh bien, vous ne mentez pas à ce moment-là. Parce que vous pensez. Facile à vous mentir. D'accord. Oui, d'accord. Voilà. Donc vous pensez, je mens en disant qu'il est mort à Sainte-Hélène si je pense le contraire, qu'il est mort ailleurs. Si vous pensez que c'était un empereur de l'Empire romain, vous comprenez que mourir à Sainte-Hélène, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est donc... Alors quel est le formel du mensonge? C'est l'intention de tromper qui est le formel du mensonge. Parce que si vous dites une chose que vous savez fausse, il ne peut y avoir qu'une malice, c'est l'intention de tromper celui qui vous écoute. Et c'est ça, le formel du mensonge. Et c'est en cela qu'il est mauvais et qu'il est transitif. Vous voyez, le mensonge, une erreur, vous avez une pensée mensongère. C'est-à-dire, pour reprendre mon exemple, vous pensez que Napoléon a été fusillé à New York en 1946. C'est une erreur, mais c'est pas un mensonge. Par contre, si vous l'affirmez pour tromper le voisin, alors c'est curieux le mensonge, parce que c'est en soi une locutio contra mentem, c'est-à-dire une parole ou une expression, on l'a déjà vu, qui est contre l'esprit de celui qui la prononce, mais le formel de cette chose-là, c'est l'intention de tromper celui qui vous écoute, car ça n'a pas d'autre sens sinon. Le formel du mensonge, c'est l'intention de tromper. D'où il suit, c'est important ce troisième point, d'où il suit que les plaisanteries, les compliments hyperboliques, les politesses exagérées ne sont pas des mensonges. Parce qu'en principe, celui qui vous écoute doit comprendre que vous vous payez sa tête. Et dans la mesure où il comprend que vous vous payez sa tête, alors vous ne faites pas une locutio contra mentem qui a l'œuvre formelle du mensonge, c'est-à-dire l'intention de tromper. Voilà. Si je dis à une vieille mémé de 90 ans, etc., qu'elle est plus jeune que, je sais pas moi, que son arrière-petite-fille, je la trompe pas. Elle est peut-être plus jeune d'esprit, etc., elle va le prendre bien, et elle va le croire, elle va être très ravie. Bon, très bien, mais je ne la trompe pas, parce qu'elle sait bien qu'elle est plus jeune, qu'elle est plus vieille que son arrière-petite-fille, etc., etc. Voilà. Dès lors, alors vous voyez, c'est, la différence est tout à fait ténue, parce que il faut que l'autre puisse comprendre. Il faut que l'autre puisse comprendre. Objectivement, alors ça, indépendant de votre intention, il faut que l'autre puisse comprendre que vous exagérez. S'il n'y a aucun moyen de comprendre que vous exagérez, alors, pour lui, c'est un pur mensonge. Et puis j'allais dire, vous pouvez pas, si vous pensez qu'il a aucun moyen de comprendre que vous allez exagérer, vous pouvez pas éviter le mensonge, c'est-à-dire l'intention de le tromper, parce qu'il va être trompé. Il va être trompé. L'histoire qui est célèbre dans ce domaine, c'est saint Thomas d'Aquin. Voilà. Saint Thomas d'Aquin était dans ses études, tout ça, dans sa chambre, en train d'étudier, etc. Puis il y a un petit moine de son monastère, je ne sais pas où c'était, peut-être en Italie, où il a passé beaucoup de temps, peut-être à Paris, peut-être à Beaune, j'en sais rien, qui se penche à la fenêtre et qui lui dit « frère Thomas, il y a un bœuf qui vole ». Et saint Thomas s'est précipité à la fenêtre. Et puis il a regardé, mais évidemment il n'y avait pas de bœuf qui volait. Et ensuite il se retourne vers le petit moine qui avait fait cette plaisanterie de mauvais goût, et il lui répond, je pensais que c'était beaucoup plus facile pour Dieu de faire voler un bœuf que de permettre qu'un moine mente. Ça l'a calmé, le moine. Voilà, et c'était la vérité, parce qu'après tout, hein, il est possible que Dieu fasse voler un bœuf. Bon, Bon, c'est pas tous les jours. Mais si vous voulez, l'autre. Alors méfiez-vous quand vous êtes dans la campagne, hein, assis dans l'herbe, etc., après un bon pique-nique, et que vous dites à votre voisin, « Attention, un serpent, un serpent, un serpent !» Ben moi, si vous me dites ça, je le crois. D'abord parce que je suis généralement naïf, hein, mais parce qu'il est possible que quand vous avez pique-niqué dans un champ de blé un peu chaud, il y ait deux ou trois serpents qui traînent. Ça, c'est toujours possible. Donc ça, c'est un mensonge. Parce que vous voyez, objectivement, celui qui entend ça ne peut pas imaginer que ce soit faux. Surtout si vous êtes quelqu'un de sérieux. Évidemment, vous avez des bouffons qui disent n'importe quoi du matin au soir. Alors évidemment, ça les disculpe un peu. Mais c'est pas ça qui compte fondamentalement. Ce qui compte fondamentalement, c'est l'objectivité des faits. Vous êtes dans un champ, il fait très chaud, il peut y avoir des serpents, il y a des fougères, etc. Question ?
Vous pouvez vous dire les plaisanteries. Si l'autre ne le prend pas, il n'y a pas de plaisanterie.
Oui.
La plaisanterie, c'est justement de faire peur à l'autre et de lui faire croire quelque chose.
Voilà, bah, une plaisanterie qui consiste uniquement à inventer un truc que l'autre pourrait croire.
Le serpent.
Bah, le serpent. Eh bien oui, mais un serpent, ça peut arriver.
Mais si ça ne peut pas arriver, c'est pas drôle. Ce qui est drôle, c'est de vous voir vous lever à toute vitesse parce qu'on vous a dit qu'il y a un serpent.
Eh bien voilà, mais ça s'appelle un mensonge. Parce que dans un champ de blé, un peu chaud, en plein soleil, on sait ce qu'il en est. Il fait 42 en ce moment dans l'après-midi à Bordeaux. Il peut y avoir un serpent. Il y a des lézards partout sur les murs. Il peut y avoir un serpent un jour. C'est possible. Si vous vous mettez à hurler un serpent, un serpent, un serpent, l'autre normalement doit le croire. Et parce que normalement il doit le croire, alors vous l'avez trompé. Et comme le formel du mensonge et l'intention de tromper, vous avez menti.
On ne peut pas plaisanter, alors.
Si.
Si on dit qu'il y a un ours polaire en plein champ.
Ah voilà, et alors là, voilà. Si vous dites, attention, un ours polaire, là, dans le prieuré Sainte-Marie, à côté, là, si le type vous croit, alors c'est lui qui est pas malin. Vous comprenez la différence? Parce qu'un serpent dans l'herbe par 42 à l'ombre, hein, c'est tout à fait possible. Mais un ours polaire égaré ici, voilà, c'est idiot, hein, mais c'est... Oui.
Il y a plusieurs formes de mensonge.
On va les voir, les différentes, on y arrive justement.
Vous tronquez la vérité, ou l'occulter, ou la farder.
Oui, oui, on va voir toutes les différentes sortes de mensonges. Mais pour l'instant, on s'occupe de ce que c'est que formellement le mensonge. C'est une locutio contra mentem. Celui qui dit qu'il y a un ours polaire, il sait très bien qu'il n'y a pas d'ours polaire. Donc on voit bien que c'est déjà la matière du mensonge, locutio contra mentem. Mais c'est pas ça le formel. C'est pas ça le formel. Parce que sinon, la plaisanterie serait toujours interdite. Vous comprenez ? Si le mensonge était formellement la locutio contra mentem, on ne pourrait jamais rigoler. Jamais.
C'est ce que font les
rires. Vous comprenez ? On ne pourrait pas rire. Parce que vous dites quelque chose que vous savez faux. Donc, vous voyez le formel du mensonge. C'est autre chose, le formel du mensonge. C'est quelque chose d'objectif. Est-ce que vous allez tromper le prochain ? Et s'il n'a aucun moyen de savoir qu'il est trompé, ben vous le trompez. Donc, il ne faut pas plaisanter avec des choses comme ça. Il faut, quand vous plaisantez, que vous puissiez toujours imaginer qu'un homme normalement intelligent va comprendre ce que vous dites. Et que c'est une plaisanterie. Et que c'est une plaisanterie. Voilà. Bon. Michel, par exemple, régulièrement, dès qu'il y a un fax qui sort ici, bon, il dit, tiens, c'est la mutation de l'abbé Herry ou c'est la mutation de l'abbé Bernabé. Bon, il ne m'a pas fait le coup encore. Hein, il n'a pas osé. Mais bon, alors, j'allais dire, la première fois, il a peut-être un peu menti, quoi. Mais maintenant, il ne ment plus, évidemment, parce qu'à chaque fois qu'il y a un face qui sort, tiens, c'est votre mutation. Bon, alors là, ça va. C'est plus un mensonge, mais ça a pu l'être au début. Oui. Non, c'est... Oui, non, c'est vrai ce que vous dites, Joseph. C'est-à-dire que là où la personne ne le croit absolument pas, bah, à la limite, c'est pas drôle. Mais la faute n'est pas là. La faute, c'est tout à fait objectif. C'est-à-dire que cette personne n'aurait pas dû imaginer que... On va voir des exemples tout à l'heure.
Mais si on lui dit dans un intervalle rapide, après, non, c'était une plaisanterie.
Mais... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il avait les moyens objectifs, quand vous lui avez dit cette chose, de penser que non ? Ou de penser plutôt que oui ? Je vous dis, moi encore, dans un champ de blé surchauffé par la chaleur, il y a des serpents. C'est un fait. Si vous lui criez au serpent, le type... parce que le jour où il y aura un serpent et que vous criez au serpent et que le gars il bouge pas en disant « mais celui-là c'est un... hein, » ben, il aura une piqûre, il va peut-être claquer, vous comprenez, de votre plaisanterie. Bon. Donc, il y a quelque chose d'objectif dans le mensonge. Quelque chose d'objectif. Avançons. Il y a trois sortes de mensonges. Il y a le mensonge joyeux, le mensonge officieux et le mensonge pernicieux. Voilà, le mensonge joyeux qui reste un mensonge, hein, pour les raisons que nous avons dites. C'est un mensonge qui est pour plaisanter ou pour rire. Il n'est pas pernicieux, il n'est pas malicieux, il n'a pas l'intention de nuire, c'est pour amuser. Mais ça reste un mensonge. L'exemple typique de mensonge joyeux, c'est l'histoire de saint Thomas que je viens de vous raconter. C'est un péché, le mensonge joyeux. Bien sûr, puisque c'est un mensonge. Le mensonge joyeux, Joseph, est un péché. C'est pas de l'intox, c'est la théologie catholique. Vous me faites marrer, mais...
C'est l'intox,
ah bah oui, non mais attendez, alors là, les campagnes d'intoxication... alors là, c'est du mensonge... C'est du mensonge pernicieux, là, vous allez voir. Mensonge pernicieux. C'est rare que les journalistes nous fassent rire avec des mensonges joyeux. Leurs mensonges sont pernicieux, direct. Alors le deuxième, celui-là, vous l'avez compris, c'est une blague où vous trompez le prochain. Et c'est pas permis, ça. C'est le moins grave des mensonges, on est d'accord. Mais c'est pas permis pour autant. Une blague où vous trompez le prochain, voilà. Oui, madame.
Si ça évite, par exemple, de faire... dans notre famille, si ça évite de faire une bêtise à un enfant, je pense que je pars du principe que moi je peux lui mentir pour éviter qu'il fasse une bêtise.
Exemple. Donc, une maman fait un mensonge joyeux, voilà la question, pour éviter de faire une bêtise à son enfant. Vous avez un exemple?
Non, pas précisément, mais...
Quand il vous pose des questions un peu insolites, de choses qu'il n'a pas à savoir à son âge?
Non, pas sur ce point-là. Par exemple, pour éviter qu'il sorte avec des mauvaises compagnies, on peut lui dire non, on a ça à faire, on va là et tu ne peux pas y aller.
Alors, un enfant a des mauvais camarades, on essaie de prendre un exemple concret, il faut essayer d'être concret. Il a des mauvais camarades et sa maman veut pas qu'il sorte avec ses camarades et elle lui dit, tu as un rendez-vous avec le coiffeur, etc. Ben, ça s'appelle un mensonge. C'est un mensonge de deuxième catégorie parce que c'est pas pour rire, là, on est d'accord. Donc, c'est le mensonge officieux. C'est pas le mensonge joyeux. Il n'y a rien de drôle. La maman est bien intentionnée. N'empêche que... Ça part d'une bonne intention, mais la fin ne justifie pas les moyens en morale catholique. Autrement dit, ne faisons pas. Et là, il faut être droit dans ses paroles, c'est-à-dire, je pense qu'il faut dire la vérité aux enfants tout le temps. Il faut leur dire la vérité tout le temps, en l'aménageant à leur âge. Ça, c'est une question de prudence. Mais si un de vos enfants a de mauvaises compagnies, eh bien, il faut lui dire carrément, et on gagne toujours à ça. T'as des amis qui ne font pas du bien, et je ne veux pas que tu sortes avec eux. Puis si vous demandez les noms, vous lui donnez les noms. Puis c'est tout. C'est comme ça qu'on fait avec un enfant. Sinon, il ne comprendra pas les subtilités. Les enfants, ils mentent, mais ils ont horreur du mensonge. Non, mais c'est terrible comme ils sont. Ils sont terribles, les enfants. Hein. Ils mentent, les enfants. C'est le péché principal des enfants. Ils mentent très souvent, dès qu'ils sont coincés. Ils peuvent mentir, en tout cas, facilement. Hein. Tandis qu'il y a des péchés plus graves qu'ils ne font pas parce qu'ils sont des enfants. Mais je pense que justement, le remède à ça, c'est pas du tout que les parents en rajoutent. Au contraire, c'est que quand papa ou maman parle, c'est certainement vrai. Ou sinon, alors on part à la dérive. On part à la dérive. Mais c'est un mensonge de seconde catégorie. Après le mensonge joyeux, le mensonge officieux. C'est pour sortir d'un embarras. Un enfant pose une question indiscrète. Ben dites-lui que c'est une question indiscrète. Et vous ne répondez pas. Voilà. C'est tout. Je te dirai ça quand tu seras plus grand. C'est pas un mensonge, ça. Parce que vous lui direz quand il sera plus grand. C'est pas une réponse exhaustive à sa question, mais c'est pas du tout un mensonge. Voilà. L'histoire des amis de vos enfants qui sont pas recommandables et que vous voulez pas qu'ils fréquentent, et vous avez évidemment entièrement raison, eh ben dites-le lui. Ce gamin-là, c'est un gamin qui est pas honnête. Qui lui-même est un menteur, qui raconte des gaudrioles, je veux pas que tu le fréquentes. Vous gagnerez toujours à ce jeu-là. Vous gagnerez à ce jeu-là. Mais si vous lui dites qu'il a un rendez-vous chez le coiffeur, alors qu'il n'avait pas du tout de rendez-vous chez le coiffeur, et vous l'emmenez chez le coiffeur, et le coiffeur n'est pas au courant, il commence à se dire, mais ce crugneugneux, c'est maman qui raconte n'importe quoi. Comprenez? Et c'est beaucoup plus embêtant que de lui avoir dit la vérité. Mensonge officieux, alors ça c'est celui qu'on fait le plus souvent, hein, parce qu'on est toujours coincé par des questions. Et là, il faut avoir une certaine personnalité. Il y a beaucoup de gens qui font des mensonges officieux parce qu'ils n'osent pas dire. C'est idiot. Ils n'osent pas dire. Quand on vous pose une question indiscrète, bah, dites aux gens qui sont indiscrets, bah, dites-le. Ça vous évite un mensonge. Vous le dites très gentiment. Voilà. Vous avez vu un tel à 5 heures. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? De quoi je me mêle? Non, mais c'est plus simple. C'est pas un mensonge quand vous dites de quoi je me mêle. Les gens sont incroyablement curieux. Bavards et pipelettes. Eh bien, nous, on est faibles devant cette audace. Où est-ce que vous étiez à 9 heures hier soir? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Dites-le. Voilà. Vous étiez avec monsieur machin. Et ben, répondez-lui, j'étais sans doute avec le grand turc, t'as mal vu. Mais alors là, vous voyez, c'est pas un mensonge du tout. C'est une plaisanterie, parce que je pense que le grand turc, il n'y en a plus. Donc là, vous voyez, vous risquez pas. Mais trouvez quelque chose. Mais trouvez pas, ah ben si, j'étais au cinéma. Vous n'étiez pas au cinéma, si vous étiez à la piscine. Hein, ou j'étais à la piscine. Ben non, vous étiez au cinéma, etc. Vous comprenez? Il faut avoir... C'est curieux comme on fait beaucoup de mensonges officieux parce qu'on n'a pas de personnalité. C'est idiot.
C'est absolu... Patron demande à son secrétaire, dites que je suis pas là.
On va voir ce cas tout à l'heure. C'est de la restriction mentale. Parce que là, on va le voir tout à l'heure. Je vous donne la réponse, je vous donne la conclusion. C'est que toute personne qui téléphone dans une entreprise et à qui la secrétaire répond en disant que le patron n'est pas là, le type, normalement, doit pouvoir... très bien comprendre, sinon c'est lui qui est un imbécile. Que le patron est là, parce que généralement un patron est dans sa boîte, sinon elle croule, bon, mais qu'il est occupé, mais qu'il est débordé, mais qu'il ne peut pas prendre cette ligne. Voilà. Alors dire pour une secrétaire que le patron n'est pas là n'est pas du tout, mais on va voir ce cas tout à l'heure, hein, c'est la restriction mentale, c'est pas du tout un mensonge. C'est pas du tout un mensonge officieux. Un type normal sait qu'un patron de n'importe quelle boîte n'est pas toujours disponible pour le premier qui appelle à n'importe quelle heure. Attendez, appelez à la poste de Bruges et demandez, donnez-moi le patron de la poste de Bruges tout de suite, je le veux, allez, terminé. Et que ça traîne. Bon, il est peut-être là, et il est peut-être décidé à vous prendre. Et la secrétaire va dire, je vous le passe. D'ailleurs, vous serez surpris si elle vous dit ça. Non, attendez, vous serez surpris. Vous serez surpris, voilà. Alors, par contre, monsieur n'est pas là, etc. Vous ne posez même pas la question. Est-ce qu'il est là? Pas là, vous n'en savez rien, puis vous n'en saurez jamais rien. Est-ce qu'il a la possibilité de vous prendre ou pas? Ce que vous savez, c'est qu'il ne veut pas en ce moment. Et la secrétaire n'a pas menti. Voilà. Voyez, distinguez bien les mensonges officieux de la restriction mentale que nous verrons tout à l'heure. Hein. Sortir d'embarras. Mais le plus souvent, hein, les péchés de gens qui ne sont pas très rigolos, qui ne font pas de péchés de mensonges joyeux, ou qui ne sont pas malicieux, qui ne sont pas méchants, leurs mensonges sont officieux. C'est pour se tirer d'embarras. Où est-ce que tu étais à telle heure? Oh, il ne faut pas qu'ils sachent, j'étais voir un film, etc. Même s'il était bien, je ne veux pas qu'ils sachent que j'étais au cinéma, parce que je ne vais pas au cinéma, puis il va croire que je vais au cinéma tout le temps, etc. Tout ça, c'est des bêtises. Vous dites, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ou bien vous dites, j'étais au cinéma et j'ai vu Terminator 4. Bon, ben vous le dites, si vous ne voulez pas mentir. Mais si vous ne voulez pas le dire, oh, vous n'êtes pas obligé de le dire. Que vous êtes sorti ce soir-là et que vous avez vu Terminator 4. Bon, de l'hémoglobine partout, tout, ça tire. Bon, très bien, bon, vous ne voulez pas le dire. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Qu'est-ce qui vous oblige à le dire? Et qu'est-ce qui vous oblige en justice à répondre à cette question indiscrète? Ce que vous faisiez hier à 10h. C'est souvent de la timidité. Le troisième mensonge, est pernicieux. C'est dans l'intention de nuire au prochain. Voilà. Il y a eu un vol dans la caisse de l'entreprise, etc. Et puis on interroge tout le personnel, le patron convoque tous les employés, etc. Et bah vous dites, bah oui, j'ai vu Madame Truc qui est sortie 2 heures plus tard, voilà, qui avait l'air très inquiète, etc. Vous voyez, mensonge pernicieux, vous n'avez rien vu du tout. Alors ça, c'est détestable, évidemment. Voilà. Alors justement, voir la malice du mensonge. Le mensonge est toujours un péché, sans exception, dès lors qu'il y a mensonge. Hein. Locutio contra mentem, dans le but de tromper le prochain. Et le formel, c'est le but de tromper. Pourquoi le mensonge est un péché? Parce que le langage est fait de soi pour exprimer ce qu'on pense. Et là, comprenez-le, hein, il y a entre le langage, j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer plusieurs fois cette année, et la pensée, un lien d'une intimité considérable. Nous pensons à l'aide des mots. Voyez, une pensée qui n'a pas encore été exprimée, vous la cherchez. Vous la cherchez, vous ne l'avez pas trouvée. Et quand est-ce que vous allez trouver cette pensée que vous cherchez? Quand vous serez capable de la monnayer, si je puis dire, en mots. Donc voyez le lien, j'allais dire, ontologique qu'il y a entre la pensée et le langage. Dès lors, voyez, que vous séparez les deux, vous brisez, j'allais dire, le fonctionnement de l'intelligence humaine. Elle est faite pour penser le vrai, l'intelligence humaine. Et pas pour dire ce qu'elle imagine. Bon. Il n'y a que les imbéciles qui peuvent croire ça. Or, le lien entre le langage, locutio, c'est du langage, hein, locutio, contramentem, et la pensée, il est extrêmement intime. L'un est fait pour l'autre. L'un est le serviteur de l'autre. Un serviteur indispensable, un serviteur qu'on utilise tout le temps, un serviteur sans lequel on ne peut rien faire, mais un serviteur. Alors, dès lors que vous séparez le serviteur et le maître, là, dans la pensée, ben, vous introduisez un désordre considérable. Imaginez que tout le monde puisse mentir sans péché. Non, mais on ne peut plus vivre. Quand vous croisez quelqu'un qui vous dit quelque chose, en principe, vous le croyez. On ne peut plus vivre. Et même, ça va plus loin. Ça va à l'intérieur de chacune de nos âmes. Vous-même, quand vous cherchez une pensée vraie, vous la monnayez avec des mots. Si vous commencez à vous payer de mots, si vous commencez à tricher au niveau des mots, au niveau de ce que vous vous dites à vous-même pour connaître les choses, je vous l'ai déjà dit ça, c'est comme ça qu'on connaît les choses, on se les raconte. On ne fait pas ça avec nous. On ne se ment jamais, nous. Hein. On a trop de respect pour nous pour se mentir. On peut savoir qu'on fait mal alors qu'on devrait faire bien, c'est une affaire entendue, mais on ne se ment jamais. On ne se ment jamais. C'est-à-dire qu'on n'utilise jamais les mots pour se tromper soi-même. Jamais on les utilise comme ça. C'est physique. C'est même métaphysique. Voilà la malice du mensonge. Le langage est fait de soi pour exprimer ce qu'on pense. Mais s'il se limite à cela, si le mensonge n'est qu'un mensonge, voilà. Si le mensonge n'est qu'un mensonge, rien d'autre qu'un mensonge. Locutio contra mentem. Il est un péché véniel. Et ça, on le voit bien. Voilà, vous avez été un peu timide, quelqu'un vous a posé une question, est-ce que j'étais à la piscine, est-ce que j'étais au cinéma, vous avez répondu, quelque chose qui est faux. Bon, il n'y a pas de grave injustice. C'est un mensonge, hein, c'est un péché. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas une grave injustice. Le mensonge, il devient grave quand il est transitif et qu'il crée une grave injustice. C'est là où vous voyez bien ce que c'est que la justice. La justice, elle remue quelque chose qui est grave. C'est-à-dire les relations entre personnes. Voilà. Si vous dites, j'ai vu ce gars-là, ouais, il n'est pas arrivé à l'heure au boulot, vous savez, c'est un type qui boit. Bon, cette petite phrase idiote, là, c'est un type qui boit. Ça fait un mal considérable. Si vous ne savez pas que ce type boit, si vous savez qu'il boit, en plus, vous n'avez pas le droit de le dire. Vous êtes le seul à le savoir. Enfin, on verra ça tout à l'heure dans la médisance. Mais indépendamment de la médisance, là, Vous pouvez le torpiller. C'est-à-dire qu'on va le... Peut-être, si vous dites ça à une secrétaire un peu pipelette, elle va répéter ça à toute la boîte, et tout le monde va prendre monsieur machin pour un ivrogne. Vous comprenez que là, c'est plus du simple mensonge. Avec ce mensonge qui est pernicieux ici, vous rentrez dans une autre catégorie. Ah, c'est ce qu'on dit. Il y a un péché véniel. Dans 1 et 2, c'est toujours un péché véniel, pratiquement. Hein. C'est très rare qu'avec 1 et 2... on fasse un péché mortel. C'est pratiquement impossible. Mais ils sont peu transitifs. Le 1 et 2, c'est-à-dire le joyeux et l'officieux. Oui, Joseph. De quoi ?
Le mensonge officieux, c'est un péché ou pas ?
C'est un péché, le mensonge officieux. C'est un péché. Non, non, ça c'est une restriction mentale. On verra tout à l'heure. Ah, c'est pas facile à distinguer ça. Entre la restriction mentale et le mensonge officieux, des fois, il y a peu de choses. Il y a quoi, disons-le tout de suite, puisqu'on y est. Il y a quoi comme différence entre le mensonge officieux et la restriction mentale? Mais comme on ne sait pas encore ce que c'est que la restriction mentale, il y a cette différence objective, c'est-à-dire palpable, par celui qui écoute. qu'il peut, s'il est normalement intelligent, ne pas être trompé. Mais c'est toute la différence, puisqu'on a vu que le formel du mensonge, c'était la tromperie. Vous comprenez la différence ? Voilà. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple d'une secrétaire qui répond que le patron n'est pas là. Ou que le patron, si elle est plus maligne, il répond, le patron ne peut pas vous recevoir. Il pourrait très bien lâcher toutes ses affaires. Il est avec sa banque à Paris, en ligne, etc. Il négocie un contrat de 600 millions de dollars. Bon, mais il est là. C'est vrai, il est là. Il pourrait lâcher son contrat de 600 millions de dollars avec sa banque parisienne ou new-yorkaise et prendre le petit gars qui va lui dire « Ouais, mais mon crédit agricole de je sais pas quoi, vous m'avez crédité, débité deux fois ce machin, etc. » Il pourrait le prendre. C'est vrai, il pourrait. Mais vous comprenez qu'il a quand même une excuse pour ne pas le prendre. C'est l'évidence. Donc on dit « Monsieur est occupé. Monsieur ne peut pas vous prendre. » Il pourrait vous prendre. Mais vous comprenez que celui à qui on dit ça, objectivement, doit comprendre qu'un patron, dans l'exercice de sa charge, bah, des fois, il a des choses plus importantes qu'à s'occuper de vous. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà, ça, c'est de la restriction mentale, si la secrétaire dit ça. Mais si la secrétaire, elle est paresseuse, j'en ai marre, ça fait déjà 250 coups de téléphone qu'on reçoit depuis ce matin pour le patron, etc. Allô, je voudrais parler au directeur général, il est pas là, hop. Ça, c'est un mensonge. Vous comprenez ? Parce qu'elle se débarrasse du client en inventant un truc qui est faux. Voilà. Qui est purement faux.
Pour le mensonge joyeux, c'est toujours un péché.
Le mensonge joyeux est toujours un péché. Tous les mensonges sont toujours des péchés. Voilà.
Alors la plaisanterie est un péché.
Non. Parce que la plaisanterie... Non, c'est pas dur. C'est très simple. C'est très simple. Quand vous dites quelque chose qui... Non, votre question tout à l'heure était très intelligente. Est-ce que s'il n'y a pas une petite tromperie, il n'y a plus de plaisanterie ? Ben, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il peut y avoir quelque chose qui amuse l'autre sans le tromper du tout. Sans le tromper du tout.
Par exemple, mais ce n'est plus des paroles. Il y a un portefeuille qui traîne par terre.
Un portefeuille traîne par terre.
Vous
essayez
de le ramasser, puis est au bout d'une ficelle, vous tenez la ficelle.
Bon.
Ça, c'est
pareil. Non, d'abord, il n'y a pas de locutio, ni contramentem, et aucune intention de tromper. Voilà. Bon. Ah bah si, le type a été trompé, mais enfin, il n'y a pas de locutio, on n'a rien menti. Non, non, ça, c'est des blagues qui sont tout à fait possibles. On organise des kermesses sur ce genre de trucs. Voilà.
On sait que c'est des jeux.
Mais là aussi... Bon, il n'y a pas de mensonge, là. Oui.
Vous avez dit qu'on ne se ment jamais.
On ne se ment pas à soi-même, non.
Quelqu'un qui est mettant dans le trouble, qui peut avoir dans le monde, je ne sais pas moi, il peut perdre un petit peu la logique, il n'est pas réellement comme... je ne sais pas comment dire, il peut se mentir à soi-même alors qu'il n'est pas comme ça.
Je persiste et signe en disant qu'on ne se ment jamais à soi-même. Et c'est facile à prouver, puisque nous avons défini le mensonge, au moins matériellement, comme une locutio contramentem. Si c'est une locutio contramentem, c'est-à-dire un parler, une parole contre l'esprit de celui qu'il prononce, par définition, l'esprit est réflexif. C'est toute la grandeur de l'esprit humain, c'est qu'il est réflexif. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, il se voit pas faisant quelque chose. Ça, c'est idéaliste. Mais il voit l'acte qu'il fait. Donc il y a une espèce de dédoublement de l'esprit. Et tout l'esprit humain est là. Bon, on l'a déjà dit 20 fois, ça, au cours de l'année. Donc, il peut pas y avoir de tromperie à ce niveau-là. Quand quelqu'un ment, par définition, il sait qu'il ment. Puisqu'il prononce quelque chose qu'il sait ne pas penser. Vous comprenez ? Tout le reste, c'est du scrupule. C'est tout. Tout le reste, c'est du scrupule. Voilà. Il ne peut pas y avoir de... Mais d'ailleurs, comme dans tout péché, le mensonge, évidemment, est plus intellectuel comme péché. Mais on ne peut pas imaginer la possibilité d'un péché qui ne soit pas connu comme péché. C'est impossible. En gros, c'est votre question, plus généralisée. On ne peut pas envisager un péché, fût-ce un meurtre, fût-ce un truc horrible, qui ne soit pas connu comme péché. La différence, c'est qu'un meurtre est toujours connu comme péché, parce que c'est impossible de l'ignorer. Bon, mais il y a des gens qui font des péchés graves, objectivement, et qui ne le savent pas, et qui ne font pas des péchés, donc. Ils font des péchés matériels. matériel. Le formel du péché, c'est quand même la volonté et l'advertance qu'il y a là-dedans. Donc, quelqu'un qui fait un péché sait qu'il fait un péché. Toutes ces inquiétudes, toute la partie sensible qui tourne autour, c'est pas ça le péché. Ça, c'est des petits codes d'alerte, des petits signaux lumineux que le bon Dieu a mis pour qu'on fasse attention. Mais c'est pas ça le péché. Le péché, c'est de savoir qu'on fait mal et de le faire. C'est ça le péché. Donc rien à voir. Et le mensonge, on sait forcément qu'on ment quand on ment. Sinon, il n'y a pas de mensonge. C'est la définition. Il n'y a même pas le formel du mensonge. Il n'y a que la matière. Il n'y a que la matière. J'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà. Donc attention, 1 et 2 sont généralement véniels. C'est clair. Une blague qui était exagérée parce que l'autre devait croire ce qu'on disait était vrai. C'est un mensonge, mais un mensonge véniel. Un mensonge officieux, monsieur n'est pas là, la secrétaire est harassée, elle raconte n'importe quoi, etc. Mensonge officieux, mais véniel, évidemment. Voilà. Où étais-tu à telle heure? J'étais là-bas, alors vous étiez à 40 km de là. Mensonge, ça ne nuit pas gravement à la justice. Qu'est-ce que ça change? Ça change que vous avez fait une locutio contra mentem. Ça s'appelle un mensonge. C'est tout ce que ça change. Oui?
Pour revenir à Saint-Thomas d'Aquin, il est possible que lui, en disant la chose qu'il a dite au moine, qu'il a fait une plaisanterie.
Non. Non, parce que vous comprenez, on est dans un monastère. Tout le monde se tait toute la journée. Oui, évidemment, cette blague, elle est un peu forcée parce que, entre nous, si vous voulez, dans le courant de la vie, on raconte des trucs comme ça qui sont de véritables plaisanteries et qui ne seraient pas des mensonges. Et c'est là où cette histoire est un peu trompeuse. Hein, pour revenir à l'histoire du bœuf de Saint-Thomas, donc, vous êtes des gens qui travaillent toute la journée dans leur cellule, à 8 heures de silence, comme ça, et puis tout d'un coup, vous avez un petit rigolo à la fenêtre, un bœuf qui vole. Il n'a pas le droit de faire ça, c'est contre la règle, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc Saint-Thomas le croit, il se précipite à la fenêtre. Vous comprenez? Alors c'est un vrai mensonge. Parce que Saint-Thomas a pensé qu'un bœuf pouvait voler. Voilà. Oui, il a fait quelques miracles dans sa vie. Donc, un de plus ou un de moins, ce n'était qu'une question de crédibilité. C'était donc un mensonge de la part de celui qui le disait. C'est vrai que si vous faisiez ça, vous, ou un autre, dans la vie courante, bon, à mon avis, ce ne serait pas vraiment un mensonge. C'est vrai. Voilà. Alors, par contre, le troisième mensonge, pernicieux. Alors, quelle gravité il a, le mensonge pernicieux? On voit bien qu'il est toujours plus malicieux que les deux premiers, ça par définition. Il cherche à nuire. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le mesurer. Il faut le mesurer par rapport à la nuisance objective à la justice qu'il représente. Voilà comment on le mesure. Voilà. C'est un ivrogne et vous partez. C'est trois mots, hein. C'est un ivrogne. Vous savez, ça peut faire un mal terrible. Ça peut faire un mal terrible. Parce que le type, il a bu une ou deux fois, bon, etc. C'est un ivrogne. C'est pas un ivrogne du tout. Hein. Même si un jour il a pris une cuite, c'est pas un ivrogne. Il y a des gens qui. Bon. Il était surpris. Noé a pris une cuite, c'était pas un ivrogne. Bon.
Il connaissait pas le vin.
Non, bon. Mais oui, mais il y a des gens, moi je ne donne pas de nom, mais je connais des gens hein, qui ont été cuités une fois, ils ont été surpris, ils n'ont jamais recommencé, ils étaient surpris. Bon, il a fallu les ramener, bon. Aller les traiter d'ivrognes, c'est une calomnie. Et c'est un mensonge, et là un mensonge pernicieux. Alors peut-être que ce mensonge-là n'aura pas de conséquences, parce que vous dites ça devant quelqu'un qui est tout à fait... Et c'est là où le mensonge est compliqué, parce que selon que vous dites ça devant quelqu'un qui est pipelette, qui est mauvais, qui etc., ça va faire une boule de neige. Et ça, faut le mesurer. Faut le mesurer. Hein. Même dans ces blagues, il faut les mesurer. Il y a des choses qu'on peut dire à certains et qu'on ne dit pas à d'autres, parce qu'ils sont faibles. Bon. Et ça peut même engendrer la gravité ou l'absence de gravité du mensonge pernicieux. Voilà. Mais vous voyez bien, quand vous inventez, après un vol dans l'entreprise, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, que seule Madame Truc était restée là 2 heures plus tard et qui avait l'air gênée, là vous inventez. Ben là vous faites une. C'est évidemment un péché mortel, ça, de toute évidence. Parce que tous les soupçons vont se porter sur cette dame qui est parfaitement honnête et qui n'a rien fait. Voilà. Alors avançons. La restriction mentale. Devant l'indiscrétion du prochain, C'est très intéressant, la restriction mentale. Ça peut nous servir beaucoup dans la vie courante. Devant l'indiscrétion du prochain et les injustices qui pourraient s'en suivre en disant la vérité. Voilà. Je sais pas, moi. Il peut y avoir des choses terribles. Bon, pour affaire, vous êtes sorti avec le mari de madame pour discuter d'un contrat, je sais pas, moi. Bon. Et madame vous dit, où est-ce que vous étiez hier soir? Vous êtes sorti avec son mari. C'était vraiment professionnel. Et parfaitement clean. Bon. Vous allez dire, et madame vous demande, vous étiez où hier soir? Ah ben, je suis sorti au resto avec votre mari. Embêtant, vous comprenez? Ça fait désordre. Et pourtant, peut-être qu'elle ignore les contrats, j'en sais rien, moi, je vous prends une histoire. Il peut y en avoir 50 000. Hein. Ça fait extrêmement désordre, et voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Ah ben, j'étais avec votre mari, on s'est fait un super bon restaurant, on est allé boire un verre ensuite, alors là, c'est fini. Vous mettez le désastre dans ce ménage. Comprenez? Donc il faut pas dire la vérité, là. Faut pas la dire. Puis si vous dites rien, alors on peut jamais mentir. Faut pas mentir, puisque on peut pas mentir. Puis si vous dites rien, ben on va garder le silence. Mais, des fois, garder le silence, c'est pire que le mensonge. Vous étiez où? Ben, je vous le dirai pas. Ben, c'est déjà que vous avez quelque chose à cacher. Vous comprenez? Vous étiez avec mon mari? Ah ben j'en sais rien. Je veux pas vous le dire. Ah ben vous êtes foutu là. C'est encore pire. Je veux pas vous le dire. Ah ben elle a conclu tout de suite que vous étiez avec son mari, etc. Et que bon voilà, etc. Bon, je vous prends cet exemple, mais il y en a 36 000. Hein, il y en a 36 000. Ce n'est pas toujours possible donc de garder le silence, puisque quelquefois ne rien dire est pire que de dire. Exemple, on questionne le chef du personnel d'une association. Monsieur X a été mis à la porte pour vol, n'est-ce pas? Voilà. Si vous dites rien, là... Vous n'en savez rien, hein? Attendez, Monsieur X, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez jamais vu Monsieur X. Mais Monsieur X a bien été mis à la porte pour vol. Si vous dites, vous tournez les talons et vous répondez pas. Le gars va se dire, eh ben, ouais, c'est qu'il y a quelque chose à cacher dans cette histoire. Donc, il est peut-être bien probable que Monsieur X a été mis à la porte pour vol. Et c'est parti pour un tour. Vous comprenez? Et là, ne rien dire est pire que de dire. Donc, il faut trouver une solution. Vous ne pouvez pas mentir et vous pouvez ne pas ne rien dire. Voilà. Ne rien dire, c'est acquiescer et diffamer. On admet donc qu'on peut retenir une partie du discours qui donne un sens double à son propos. On admet, tous les moralistes admettent ça. J'ai pas inventé la restriction morale, mentale. On retient une partie du discours qui donne un sens double à son propos. Faut être un peu intelligent pour faire de la restriction mentale, hein. Et permet, sans mentir, de répondre sans trahir. Voilà. Vous dites, exemple, Monsieur X a démissionné. Voilà. C'est vrai qu'on lui a demandé de démissionner. On a dit, vous démissionnez, parce qu'il a été, surpris en flagrant délit de vol. Vous démissionnez, sinon on vous fait un procès, hein, où vous perdrez évidemment, pour cause grave, et vous n'aurez aucun droit. Alors écoutez, monsieur, vous gagnez les 2 mois, hein, de... Vous démissionnez, vous perdez, plus exactement, vous perdez les 2 mois de salaire, hein, quand on démissionne de préavis, voilà, je cherchais le mot, préavis, mais alors, nous, on dira pas que vous avez piqué dans la caisse. Tout le monde est content. Lui, il perd 2 mois de salaire, c'est-à-dire que la boîte les gagne, mais lui, il n'est pas sorti comme un voleur. C'est important, ça. Et j'estime qu'un patron doit faire comme ça. Monsieur, il va y avoir un procès. Vous allez passer au prud'homme, vous êtes sûr de perdre. J'ai 3 témoins comme quoi vous avez piqué dans la caisse, donc vous démissionnez gentiment. Et on parle plus de tout ça. C'est honnête. C'est bien. Oui, mademoiselle.
Oui, un autre exemple. Un employeur a eu un salarié qui a quelqu'un en stage qui était très mauvais. Et son futur ou son prochain employeur lui téléphone pour demander l'avis de ce que vous pensez de cette personne.
Voilà, et alors?
Vous ne voulez pas l'unir, donc vous ne voulez pas dire entièrement la vérité. Mais vous pouvez pas cacher...
qu'il est nul. Donc je répète la question pour que ce soit clair. Et c'est une très bonne question. Donc quelqu'un se fait sortir d'une entreprise. Il est sorti ou il démissionne, d'après votre cas?
Au terme de son contrat, par exemple.
Au terme de son contrat, un nulard est viré, enfin non, et quitte l'entreprise. Et le nouveau patron téléphone à l'ancien pour lui dire « Mais qu'est-ce que vous pensez de monsieur Untel ?» Voilà. Là, je pense, on n'a pas le droit de mentir, hein, donc il faut dire la vérité. D'accord, c'est quand même le principe de base, hein, ne l'oubliez pas. C'est courant, c'est courant. Vous ne pouvez pas mentir et vous ne pouvez pas nuire non plus à ce gars-là. Et je pense que, enfin, pour répondre court, dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité n'est pas malhonnête. Ça, vous n'allez pas dire le contraire. Si le gars sait rien faire, c'est un fumiste, c'est un ivrogne, etc. Si c'est un... Alors attention, on n'a pas le droit de dire quelqu'un est ivrogne parce qu'on le sait. On le verra tout à l'heure. Mais un patron qui veut embaucher quelqu'un, un patron est supposé se taire sur ses collaborateurs, par définition. Donc là, vous ne diffamez pas en le disant au patron. Peut-être que ce patron dit tout à sa femme et que sa femme est une pipelette et que toute la ville va le savoir. Mais ça, c'est pas de votre faute, hein. Attention. Voilà. Mais en soi, dire la vérité, là, je pense, c'est ce qu'il faut faire. Non, enfin, il faut être charitable, si vous voulez, mais la vérité, c'est la vérité. Vous ne faites aucun péché à dire que ce gars-là arrive toujours 2 heures en retard au boulot, qu'à 5 heures du soir, il est complètement bourré, etc., et qu'il raconte des caudrioles, et qu'il sait rien faire de ses 10 doigts. C'est... Ben, c'est déjà grave, tout ce que je viens de dire, non?
Oui, non, mais...
Ça fait déjà pas mal sur un même... C'est le cas.
Je prendrais un exemple... Quelqu'un qui est malade, bon, qui a une grave maladie, mais qui ne nuit pas forcément de son travail, mais bon, ça peut être par période. Est-ce qu'on est en droit de le dire? C'est, à la limite, on n'a pas le droit.
Mais là, on ne diffame absolument pas quelqu'un en disant qu'il est malade. Il faut que le patron nouveau assume cet état de santé.
Mais si à cause de ça, ce gars-là est embauché,
Alors, écoutez, il faut distinguer la justice et la charité. La justice, elle consiste au bien objectif qu'il y a entre deux personnes. Voilà. Si quelqu'un est souvent malade, je pense que le nouveau patron, doit le savoir. Mais oui.
En justice, oui.
Mais en justice. C'est évident. Bon, on est dans la justice, là. Hein. Je vais pas parler de la charité. Bon. On est dans la justice. Qu'est-ce que vous voulez? Embaucher quelqu'un qui est habituellement malade?